talmudique. Si je dis Montreux, Marrakech et Bordeaux par exemple, on pense jazz, soleil et vin, ce qui est juste. Mais ces villes, comme d'autres encore, ont aussi en commun d'accueillir dans leurs murs ce qu'aujourd'hui l'on a pris l'habitude de classer comme le 11e art, l'humour. Des matinales d'information rythmées par les billets d'humeur et les pastilles d'humour, aux émissions de télévision dans lesquelles les humoristes s'insèrent entre les chroniques et interviews, en passant par les seuls en scène, l'humour a pris une place importante dans notre société. J'aime à me souvenir que le texte biblique, parmi les trois patriarches, nous fait découvrir que le second, Isaac, Yitzhak en hébreu, évoque le rire. Isaac signifie en effet « il rira ». Fils improbable de deux quasi-centenaires, Abraham et Sarah, sa naissance fut alors ressentie comme un grand éclat de rire, comme une bonne blague. Tout se passe comme si, entre les fondations du passé représentées par Abraham et les constructions futures de la lignée représentées par Jacob, il était nécessaire que l'humour s'en mêle. Et en modifiant à peine une réflexion de Bergson à propos de la conscience, ne pourrait-on pas dire alors que l'humour est ce trait d'union entre ce qui a été et ce qui sera, un pont jeté entre le passé et l'avenir? Mais qu'est-ce que l'humour? Est-ce seulement ce qui nous fait rire? N'est-il pas un vocable trop général qui gomme les nuances? N'y a-t-il pas d'autres formes à interroger? L'ironie, par exemple, et le comique? Peut-on rire de tout? Où placer les limites? Ne faut-il pas aussi se méfier d'un certain politiquement correct qui conduit parfois à l'autocensure? Comment l'humour a-t-il évolué? Comment s'est-il diversifié? Pour répondre à ces questions, ne faut-il pas dès lors inverser la formule et dire que si l'histoire a besoin d'humour, l'humour aussi a besoin d'histoire? Et c'est en ce sens, sans doute, que le musée d'histoire, d'art et du judaïsme a pris une belle initiative de proposer du 15 octobre 2020 au 28 février 2021 une grande exposition intitulée « Du côté d'ailleurs » consacrée à l'un des plus grands artistes du verbe humoristique, j'ai nommé Pierre Dac.
Enfin dites-moi, tout ça c'est très joli, mais vois ça avec le changement de gouvernement, enfin qui est le même d'ailleurs, avec le bouleversement. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle?
N'est-ce pas, c'est...
Oui, bien sûr, ceci vient tout de suite à l'esprit.
Ah oui.
Mais et quand même, hein, quand on y réfléchit...
Quand on va au fond des choses...
Oui, on risque d'y rester.
Oui. Et pour en sortir...
Oui, c'est toute une histoire et toute une affaire. C'est comme ça.
Et pas autrement.
Et comme disait celui qui ne voulait plus rien à dire, vaut mieux se taire.
Anne-Hélène Houg, bonjour.
Ouais. Bonjour.
C'est un grand plaisir de vous recevoir. Les auditeurs vous connaissent bien puisque ils ont pu vous entendre sur France Culture et en particulier dans Talmudic dans plusieurs émissions consacrées entre autres à Gottlieb, Goscinny, Luz et Albert Cohen. Vous êtes actuellement directrice du prestigieux musée de la bande dessinée à Angoulême après avoir été pendant de nombreuses années conservatrice au musée d'art et d'histoire du judaïsme où vous revenez pour le temps de cette exposition consacrée à Pierre Dac et dont vous êtes la co-commissaire. Pourquoi Pierre Dac? Y a-t-il aujourd'hui une actualité Pierre Dac ou peut-être, devrais-je dire, une urgence Pierre Dac, Anne-Hélène Houg?
Le terme urgence me plairait assez, effectivement. Nous avons besoin de paroles telles que la sienne, de postures telles que la sienne, et nous avons besoin de retrouver des modèles, je pense, des modèles de probité, d'intelligence, de finesse sociale et politique, de finesse intellectuelle. Et puis nous avons besoin de rire, nous avons besoin d'être heureux et de nous sentir heureux de manière intelligente.
Alors vous êtes co-commissaire avec Jacques Pessis, et Jacques Pessis a un lien très particulier avec Pierre Dac.
Oui, il a un lien unique. Il a rencontré Pierre Dac quand il avait 15 ans. Jacques était fou de signer Furax et il a été possédé du désir de rencontrer Pierre Dac. Et il a réussi, il l'a poursuivi avec obstination. Et au bout de quelques semaines, il a réussi à le rencontrer. Et il l'a invité à faire une conférence à son lycée, qui était le lycée Claude Bernard. Et de ce jour, ils ne se sont plus quittés. Jacques s'est occupé avec une piété filiale, un amour, une dévotion très grande de Pierre Dac, qu'il a aimé en retour. Également, il s'est occupé de Dina, la femme de Pierre Dac et sa veuve. Il a vraiment été un fils spirituel, un héritier, un ayant droit. C'est un exécuteur testamentaire modèle et pour lequel consacrer une exposition à Pierre Dac, je pense, a été... une œuvre de dévotion et aussi quelque part de salut public.
Oui, c'est bienvenu par les temps qui courent. Ces grandes lignes biographiques sont importantes à connaître avant de rentrer dans l'œuvre elle-même, Anne-Hélène Houg.
Oui,
qui est Pierre Dac?
Oh, c'est un individu tout à fait singulier, fascinant, complexe. Pierre Dac naît dans une famille d'un milieu populaire de commerçants. Son père était boucher, du côté de sa mère, c'était des marchands de chaussures. C'est des Juifs d'Alsace qui avaient opté pour la France en 1870 et qui s'étaient installés à Châlons-sur-Marne, Châlons-en-Champagne, et puis ensuite sont venus à Paris. Le papa était boucher non cachère, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une intégration, c'était pas un milieu religieux, mais qui vivait avec des juifs et des non-juifs d'une façon tout à fait normale, comme les Israélites français vivaient dans les années de la fin du 19e siècle. Il est né en 1893, Pierre Dac. C'est quelqu'un qui est né à la fin de l'autre siècle. On peut penser à Calvo aussi, qui est né en 1892, et il y a des similitudes parfois frappantes entre les deux hommes. Et Pierre Dac naît dans ce milieu populaire où l'on parle le louchébème, qui est l'argot des bouchers. Et puis on parle le judéo-alsacien, et puis on parle le français. Et cet enfant qui va d'abord être destiné à devenir violoniste, et puis qui devra abandonner ce rêve suite à ses blessures durant la Première Guerre mondiale, cet enfant n'est pas très doué à l'école, ou je dirais même qu'il est trop doué pour l'école. Et ce parcours de Pierre Dac qui va l'amener vers le théâtre, vers la scène, c'est sans doute quelque chose qui est aussi appelé par l'humour qu'il y avait dans sa famille, par cet humour de l'homme de la rue. C'est quelqu'un qui a su s'adresser à l'homme de la rue parce qu'il en était un. Je pense qu'il a eu, il n'a jamais fait de hiérarchie entre haute et basse culture. Et c'est certainement la vertu de l'humour de ne pas faire cette hiérarchie et même au contraire de montrer à quel point il serait vain d'essayer d'en faire une. Il a donc un parcours d'abord d'homme de cabaret, de chansonnier, absolument innovant. L'autre aspect de Pierre Dac, qu'on connaît moins, par le fait qu'il est aussi l'inventeur du Schmilblick, l'inventeur des émissions d'humour à la radio, qu'il a apporté ce sens aigu de l'absurde qui a marqué des générations d'humoristes et même de français jusqu'à aujourd'hui, qui a fasciné les Monty Python d'ailleurs. Terry Gilliam adorait Pierre Dac. Il a également été un grand résistant, quelqu'un avec des convictions, je dirais, droit dans ses bottes.
Alors justement, j'allais vous dire, en écoutant et me rappelant le son de la voix de Pierre Dac, je pense à Camus et son discours d'Uppsala en 1957, où il dit « Tout artiste aujourd'hui est embarqué dans la galère de son temps, il doit s'y résigner, même s'il juge que cette galère sent le hareng, que les gardes chiourmes y sont vraiment trop nombreux et que de surcroît, le cap est mal pris, nous sommes en pleine mer. L'artiste, comme les autres, doit ramer à son tour, sans mourir s'il le peut, c'est-à-dire en continuant de vivre et de créer. » 1957, c'est la grande période radio de Pierre Dac, et en particulier de la série Signé Furax dont vous venez de parler, mais Pierre Dac est embarqué depuis la première heure. Son engagement politique n'est-il pas l'une de ses marques de fabrique, comme vous commenciez à l'esquisser, Anne-Hélène Houg? Et cet engagement peut-il être un modèle pour les humoristes d'aujourd'hui? Comme disait Pierre Dac, les temps sont durs, vive le mou.
Sans porter de jugement sur les humoristes d'aujourd'hui, je dirais que l'engagement de Pierre Dac devrait être un modèle pour tous. C'est tout simplement parce qu'il est profondément humaniste et qu'il y a des choses pour lesquelles il n'accepte pas de faire de compromis. Il y a des lignes qu'il ne faut pas passer. C'est un humaniste profond, comme les humoristes doivent l'être, d'ailleurs, et le sont. C'est-à-dire que l'humour en dessous de la ceinture, ça n'est plus de l'humour. L'humour, c'est quelque chose d'enrichissant, d'intelligent, de stimulant. C'est quelque chose qui vous amène à réfléchir, qui vous surprend, qui vous fait découvrir des aspects de vous-même que vous ne connaissez pas. Tout ça, il l'a fait. Son engagement, il est lié d'abord, bien sûr, à son patriotisme et à son sens profond de la démocratie. C'est aussi quelqu'un qui s'est engagé pour le Front populaire. Il est lié à son sens de la dignité humaine, qui est extrêmement aigu, à sa sensibilité profonde et à son courage. C'est quelqu'un qui n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur de critiquer Hitler, de le brocarder dans l'eau sa moelle, à la radio. Et lorsque les collaborateurs de Vichy et Hitler ont cherché à mettre la main sur lui, il est parti en zone sud et il a immédiatement désiré être utile à quelque chose. Donc il a entendu parler de l'appel du général de Gaulle et a décidé qu'il allait rejoindre Radio Londres. Bien sûr, au départ, il savait pas exactement comment il allait s'y prendre, mais sa belle-mère, tenait une sorte de bistrot-brasserie qui s'appelait le Crystal Palace à Toulouse, qui était un repère de résistants. Et donc, il a eu très vite, quand il a constaté que même en zone sud, il n'aurait pas de liberté d'expression, il a eu très vite le désir d'aller rejoindre Londres et il a fait 3 tentatives, la dernière a finalement réussi, pour y parvenir. Le courage et l'obstination de Pierre Dac à se trouver du côté qu'il estime être juste. Et ça, c'est quelque chose qui le traverse totalement. La décence, la justesse. Et il n'a pas dessous de méchanceté en lui. Par contre, il a de l'acuité critique.
Une acuité critique qui se retrouve dans ses textes, textes courts en prose, des pensées dans un style aphoristique, un mélange de Pascal et de Sacha Guitry. Quelle fut son innovation dans le monde de l'humour? Vous en avez un petit peu parlé. Son interaction avec le public, le fait de solliciter un public actif, comme dans La Chasse au Trésor, par exemple. Est-ce le choix de lui donner une place dans les médias, radio, télévision, et peut-être qu'aujourd'hui, il aurait été youtubeur, ou encore l'usage de l'argot que vous avez évoqué, qu'il découvrit dans la profession paternelle qui était boucher, et s'inspirant peut-être aussi du livre de Marcel Schwob et de Georges Guillès, L'argot du français, aux éditions Boucher, et c'est pas une blague, ouvrant par cet argot Loujbem Largonji une place nouvelle et importante à la culture populaire, Anne-Hélène Houg.
Oui, je crois que la culture populaire joue une liberté par rapport à la langue qui a rendu possible l'argot, bien sûr, et qui a rendu possible les argots, quelle que soit la période. Il y a toujours eu des parlers populaires, toujours. Des parlers qui pouvaient avoir différentes fonctions, des fonctions professionnelles, des fonctions culturelles, humoristiques, des fonctions de code. C'est ça la liberté de la langue. Et lui, il en a fait un usage extrêmement bon pour nous, parce que il interroge, dans son rapport à la langue, il interroge ce que nous tenons pour des choses acquises, banales. Il questionne nos certitudes. Et ça, il le fait notamment par la manière dont nous manions les adverbes, par exemple. Toujours, jamais, rien, quelque chose, un peu, beaucoup, devant, derrière. Les grands concepts, hein, l'avenir, la liberté, la dignité, il interroge comment nous banalisons ces mots, nous les tenons pour acquis, alors que fondamentalement, et on retrouve ça chez Gottlieb, on retrouve ça chez Goscinny, mais l'être humain maîtrise très peu de choses du cours de sa vie. Ce décalage entre ce qu'il maîtrise, enfin entre ce qu'il croit maîtriser et ce qui lui arrive, là il a le choix, il a une marge de manœuvre et le rire fait partie des éléments de cette marge de manœuvre. C'est ce que disait Bergson, c'est-à-dire que le distrait, celui qui fait le pas de côté, celui qui va ailleurs, qui se positionne en décalage par rapport au groupe, par rapport au sens commun, je dirais, au sens directionnel commun, celui-là ne peut pas ne pas remarquer les incongruités, les paradoxes et à quel point nous fonctionnons dans des logiques qui finalement sont très gratuites et pas si rassurantes que cela. Et donc c'est ça, l'humour de Pierre Dac, c'est de nous dire attention, vous croyez que vous tenez quelque chose, vous croyez que vous êtes assis sur quelque chose, vous n'êtes assis sur rien, vous ne tenez rien. Et vous ne tiendrez que lorsque vous accepterez que vous ne pouvez pas posséder la certitude que vous ne pouvez pas être sûr.
D'où le titre de son roman « Du côté d'ailleurs » que vous reprenez comme intitulé de l'exposition. « Du côté d'ailleurs », c'est ce pas de côté, un petit peu comme Moïse qui est sur son chemin et qui regarde à droite et qui ou à gauche et qui voit un buisson qui brûle et qui ne brûle pas, qui ne se consume pas et qui pose la question « Pourquoi ?» C'est cela que vous dites.
Oui, c'est aussi le « ici, partout, nulle part ». Je me serais retrouvé du côté de nulle part, dit-il à sa compagne, si je ne t'avais rencontré. Il écrit du côté d'ailleurs parce qu'il crée un monde parallèle et il fait penser en cela à des gens comme Ionesco, comme Beckett. Il fait aussi penser à tout ce qui serait de l'ordre de la science-fiction, c'est-à-dire ces mondes qui sont si semblables aux nôtres et en même temps pas du tout les nôtres. Et donc il crée ce que Freud appelait le Unheimlich, le sentiment d'étrangeté, le estrangement. C'est ce que font les Marx Brothers, c'est ce que font les Monty Python, avec plus ou moins de radicalité, plus ou moins d'excès, ce dont Pierre Dac et Francis Blanche ne se sont pas privés d'ailleurs. C'est-à-dire que l'écart, on pouvait radicalement le rendre présent dans l'exagération la plus burlesque et la plus poussée. Mais avant tout, tout cela repose sur la langue, sur la manière dont nous communiquons les uns avec les autres, sur nos images mentales. Autre lieu, la capitale du côté d'ailleurs, dans son roman, pourrait fonctionner d'une manière parfaitement logique. Sauf que c'est un monde d'absurde. Et pour lui, le gouvernement de la 4e République, par exemple, est un gouvernement qui est sans arrêt dans l'absurde, qui se gorge de mots. Il a une critique incroyablement drôle des hommes politiques, de la manière dont il croit tenir les rênes de quelque chose qui s'appelle le pouvoir, ou dont ils veulent faire croire que leur pouvoir serait légitime, ou qu'ils seraient ceux qui comprennent, qui savent. Donc il a une critique aussi de ces gens qui se prétendent nos guides, comme Pétain s'est prétendu le guide des Français, et qui en fait ne le sont pas. Quand il se présente au nom de justement les temps sont durs, vive le mou, au nom de la rénovation politique, aux premières élections présidentielles, au suffrage universel, en concurrent de Gaulle, bien entendu il est soutenu par Jean Yann, par Jacques Martin, par Goscinny, parce qu'ils ont tous compris qu'il y a là, c'est le premier à avoir fait ça avant Coluche, hein, qu'il y a là un questionnement extrêmement fort qui s'adresse à la manière dont les hommes politiques s'enfoncent dans leur système et veulent que tout le monde les suive alors que ça ne marche pas. Toutes leurs phrases sont cousues main en quelque sorte de ces dénonciations de l'illogisme. C'est pour ça que j'appelle ça le nihilogisme de Pierre Dac, c'est-à-dire la logique n'est pas là où vous le pensez, la logique n'est ce que vous croyez allant de soi ne va pas de soi. C'est ça l'art de l'absurde. C'est précisément qu'il y a des choses dont on ne comprend pas pourquoi elles sont là, pourquoi on les porte à bout de bras alors qu'elles n'ont ni sens ni raison.
On parle de Pierre Dac, de l'humour, du rire, mais il y a aussi de la douleur et de la souffrance. On l'a dit mélancolique, en témoignent ces différentes tentatives de suicide. D'où venait cette mélancolie, Anne-Hélène Houg?
C'est très juste de parler de cette mélancolie. Je pense qu'effectivement, il a, comme beaucoup d'humoristes, comme Gottlieb, revenons-y, parce que c'est vraiment ce qui les rapproche. Ils ont cette mélancolie, précisément parce que l'absurde, la perte de contrôle, prendre conscience qu'on ne contrôle pas sa vie, et puis des épreuves traversées, bien sûr, font que, entre la désespérance et l'espérance, il y a un va-et-vient continu. Alors, l'humour de Pierre Dac, il a connu plusieurs périodes. Ce n'est pas le même humour de 1922 à 1974. L'humour de Pierre Dac, ça a été un humour qui croyait dans la possibilité de changer la société dans les années 30. C'était à la fois quelqu'un qui était peu engagé politiquement parce qu'il était plus dans la satire sociale et il s'amusait beaucoup et dans la parodie culturelle parce qu'il sortait de la Grande Guerre qui avait défiguré le monde, qui faisait que les choses n'étaient pas les mêmes. Et je pense que dans ces tensions des années 30, il s'aperçoit bien que quelque chose ne se répare pas. Quelque chose est devenu irrémédiable, mais en même temps, il se dit qu'on va pouvoir quand même empêcher la dégringolade. Or, la dégringolade arrive, et bien sûr, la Shoah arrive. Quand je dis bien sûr, c'était pas voué à arriver, mais nous savons qu'elle est arrivée et qu'elle a été commise et qu'il n'y a alors là absolument plus de consolation possible. Et Pierre Dac a vu cet effondrement de la morale générale, de la dignité, cette blessure absolument fondamentale qui a été faite à la solidarité humaine. Je pense que ça l'a atteint plus que tout. Et puis, d'une manière plus concrète, je dirais qu'il ne retrouve pas son public immédiatement dans les années qui suivent la libération. Donc il lui faut un certain temps pour reprendre pied et retrouver finalement un langage, un mode de communication avec le public. Vous posiez la question du public. Effectivement, il avait son public dans les années 30 et les gens se souviennent de Pierre Dac comme la voix de Radio Londres. Mais finalement, tout ce qui marchait, tout son humour, tout son système d'humour d'avant-guerre n'a plus prise sur les gens. On a changé de code après 45. Et toute une nouvelle génération d'humoristes arrive. Mais c'est ça le courage de cet homme et son intelligence, c'est qu'il va reprendre pied, il va recommencer à écrire, et il va fasciner de jeunes comme Francis Blanche, Darry Cole, Jean Yann, Goscinny. Il va arriver à mobiliser autour de lui, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, des jeunes humoristes, des proches bien sûr, qui l'ont pris comme modèle.
Amis téléspectateurs, bonjour. Le Schmilblick est aujourd'hui à Cajarc, petite ville de l'Aveyron. Je rappelle que le Schmilblick est à peu près rond, qu'il contient du jaune, qu'il tient dans la main, qu'on peut le faire cuire de différentes façons et qu'un navigateur le faisait tenir debout. Enfin, bon. À vous Cajarc, à vous Simone, premier candidat.
Bonjour Guy, habitant de Cajarc, venez nombreux, bonjour.
Un article de pêche de qualité s'achète chez Moulinot.
trois questions, monsieur Molineau.
Mais alors, est-ce que le Schmilblick est-il vert?
Non. À quoi pensiez-vous, monsieur?
Un verre de terre de chez Molineau.
Candidat suivant, très vite, Simone.
Oui, candidat suivant, c'est monsieur.
Bonjour, Guiluc, je me présente, Émile Duboulin, compagnon de la Libération, de passage à Cagère. Est-ce que le Schmilblick a fait 39-40?
Non, monsieur, non.
Ça ne m'étonne pas, ce sont tous des planqués à la télévision.
C'est ça, monsieur. Allons très vite, Simone, candidat suivant.
Oui, c'est à vous, monsieur.
Rola Salim Ben Salim.
Monsieur Ben Salim.
Salim, c'est pas français comme nom.
Salim, alors posez votre question.
Merci, mademoiselle. Est-ce qu'il reste la soula, s'il vous plaît? Est-ce qu'il reste la Tarawal Schmilblick? Est-ce qu'elle a pour cela qu'elle a trouvé par terre?
Tenez, Simone, monsieur, je ne comprends pas, monsieur a été coupé.
Qui te raconte des saloperies
à la télévision, toi, j'ai été coupé? Qui te raconte?
Écoutez, monsieur, nous n'avons pas tout compris, alors.
Si je ne comprends pas, je parle français. Ah, c'est bien toi, s'il te plaît. Alors, je fais la garde d'Algérie comme tout le monde, s'il te plaît. Saloperie, raciste.
On aura reconnu la voix de Guy Lux et de Coluche avec la participation de la comédienne Christine Dejoux dans le célébrissime sketch du Schmilblick, un mot qui, aujourd'hui, est passé dans le dictionnaire, mais dont peu de personnes se souviennent vraiment qu'il fut inventé par Pierre Dac en 1954. Qu'est-ce que le Schmilblick, Anne-Hélène Houg? Et avant que vous ne répondiez, j'aimerais ajouter que je trouve cette archive particulièrement émouvante, car elle date de 1975, l'année même de la mort de Pierre Dac. Et peut-être c'est un clin d'œil du destin qui nous invite à penser la question des filiations de Pierre Dac. Et je pense à ce texte du Midrash qui dit, à propos d'un verset de l'Ecclésiaste, « Le soleil se lève, le soleil se couche. » Rabbi Abba Bar Kahana commentait de la manière suivante, « Ne savions-nous donc pas que le soleil se lève et se couche ? En réalité, le verset veut nous dire ceci, « Avant que le Saint béni soit-il ne fasse se coucher le soleil d'un juste, il fait se lever le soleil d'un autre juste. Le jour où Rabbi Akiva mourut, Rabbi Yehuda Anassi naquit. » Anne-Hélène Houg.
Oui, vous venez d'introduire un passage qui donne à réfléchir, et le Schmilblick, effectivement, donne à réfléchir. Le Schmilblick, ça peut servir à tout, à rien, on y met ce qu'on veut. En réalité, c'est une construction de l'esprit qui n'est pas exactement le même Schmilblick pour Guy Lux et Coluche qu'il l'a été pour Pierre Dac. Quand Pierre Dac invente le Schmilblick et le Biglotron, qui sont à peu près semblables, c'est une parodie de la science. C'est-à-dire qu'il va vraiment jouer de l'objet étrange non identifié qui devrait, dans le sens commun, avoir un but, une destination, un usage pour tous, et qui n'en a strictement aucun, qui reste non identifiable, tout en ayant une consistance et une présence matérielle. Alors, il mettait trois bricoles ensemble et ça constituait le Schmilblick et ça n'avait ni queue ni tête. Et il est capable de vous faire, sur le Biglotron, par exemple, des démonstrations scientifiques de mécanismes et de physique qui sont tout à fait éblouissantes. Tout ça parce qu'il nous dit, attention, la raison scientifique demande à être décodée et ces jargons qui restent obscurs pour nous pourraient nous faire avaler n'importe quoi. Nous en savons quelque chose jusqu'à aujourd'hui. Alors dans le Schmilblick, il y a, moi je l'interprète comme étant le regard de l'idiot, qui viendrait de Schlemmel, qui en judéo-alsacien, c'est l'idiot, bêta, aussi le bon à rien. Et puis le blick, qui est le regard. Après, on pourra, je laisse quiconque en a envie, trouver d'autres interprétations à ce mot, qui vient certainement d'une combinaison. Il aimait aussi parler de schmulmul, par exemple, hein, ou de spulmul. Spulen en allemand, rincer, mul, c'est le moulin. Voilà, il utilise comme ça des mots qui viennent souvent de l'alsacien. Sa filiation, elle est précisément dans ses inventions, le biglotron, le Schmilblick. Et puis on s'est rendu compte hier en relisant des articles, parce qu'on finalement s'en était jamais rendu compte, qu'il a inventé le mot spam. Il vous décrit le spam dans le journal de la France Libre à Londres. Il invente le spam idée qui est autogénérant, qui est hermaphrodite, qui n'a besoin de rien, qui survit à tout, qui prend toutes les formes depuis qu'il est là depuis la naissance du monde et qui ne disparaîtra jamais et qui se réinvente à chaque fois. Et donc il est hors de question de l'arrêter. C'est précisément l'idée du spam qui s'introduit partout et qui profite des moindres failles pour se régénérer. La question de l'affiliation, je l'aborderai d'abord par le rapport à Jean-Yann, à Darry Cole, à Francis Blanche, bien entendu, qui était son fils spirituel, qui ont été des monstres de la scène et de l'humour dans les années 60.
Et Raymond DeVos dans tout ça?
Oui, bien sûr, DeVos. Il a beaucoup compté, ils se sont connus. Mais ce qui est le plus marquant, sans doute, c'est le rapport à Pierre Desproges. Je pense que Desproges est celui qui a été le plus proche de la radicalité de Pierre Dac dans son défaitisme, dans son humour noir, absolument noir. C'est là qu'on voit que des proches, dans toute la finesse intellectuelle de son discours et dans la radicalité, une agressivité qui n'en est pas réellement une, des proches a saisi ça de Pierre Dac. Je pense qu'il est vraiment, pour moi encore aujourd'hui, l'incarnation de l'esprit de Pierre Dac. Mais il y en a eu d'autres. Et Coluche, lui, a pris la veine populaire. Alors, quand ils ont repris le Schmilblick, ils n'étaient pas, je vous le disais tout à l'heure, dans l'esprit de Pierre Dac, mais ils en ont fait quelque chose qui était précisément fascinant dans la culture populaire, parce que les gens adorent ce genre de jeu télévisé, inventé par Pierre Dac, le jeu à la radio, la course au trésor, dans les années 30. Donc ils font ces sketchs qui commencent sur des scènes de théâtre et finissent à la radio et à la télévision, et qui amusent prodigieusement tout le monde, parce qu'on reconnaît tous quelque chose qui est précisément de l'absurde.
Quelle était cette relation particulière que Pierre Dac avait avec le judaïsme, même si, comme vous l'avez évoqué, c'était quelque chose au départ de purement traditionnel et très lointain?
Alors, il était proche des fondateurs de la Ligue contre l'antisémitisme dans les années 30. Le sens de la dignité humaine, je pense, lui est apparu comme particulièrement en danger, menacé. Et il a surtout vu dans l'après-guerre que la justice ne se faisait pas vraiment, et qu'il n'y aurait pas de réparation. C'est pour ça qu'il a accepté un rôle extrêmement sérieux et tragique dans l'instruction, la pièce de Peter Weiss, qui reprend les procès-verbaux des procès de Francfort, ce qu'on a appelé le second procès d'Auschwitz, puisque c'était les bourreaux de Auschwitz, 22 bourreaux d'Auschwitz qui étaient jugés. Premier procès fait en Europe à des nazis. La pièce qui en est faite par Peter Weiss, qui est très dure, hein, la pièce est difficile, hein, qui vous décrit tout. Le côté sordide, enfin, tout est là. Et il a accepté de jouer ça parce qu'il croyait faire une mitzvah, c'est-à-dire une bonne action. Il en avait besoin. Il fallait réparer et il fallait raconter. Il fallait que les gens comprennent ce qui s'était passé. C'était difficile de parler de la Shoah après la guerre. Et la pièce de Peter Weiss, Die Ermittlung, l'instruction, a proposé, traduit dans le monde entier, hein, qui a été joué, ça a été un très grand succès, mise en scène par Gabriel Garand au théâtre d'Aubervilliers, permettait d'évoquer les choses en ayant ce recul de la scène, précisément. Et je crois que le judaïsme, pour lui, n'est toujours pas une affaire de religion, mais qu'il a été un partisan farouche de l'existence d'Israël, et que Israël venait apporter ce refuge, ce répit qui était nécessaire. Le rapport au judaïsme lui remonte en quelque sorte par, ça peut être le Shema Israël, donc Écoute Israël.
Un texte qu'il a écrit en 68, et j'aimerais peut-être qu'on en lise quelques lignes, si vous voulez bien, Anne-Hélène Houg, juste pour comprendre ce que vous venez de dire, à savoir cet engagement pour Israël comme solution à son époque pour...
Oui, et puis l'idée de l'évocation aussi de qu'est-ce que c'est d'être inconsolable et d'avoir de la mémoire, mais en même temps d'être dans le pardon. C'est l'époque aussi où on pardonnait dans la dignité de Yankelevitch. Il écrit donc « Écoute Israël, sur la terre promise qui est tienne aujourd'hui, souviens-toi Israël de la promesse que Moïse te fit sur le mont Sinaï. Écoute Israël, souviens-toi Israël. Porter le lourd fardeau de la sottise humaine et le sort désigné, qui longtemps fut le tien, et pour que tu supportes le poids de ta peine, le tourment fut pour toi le seul pain quotidien. Écoute Israël, souviens-toi Israël. » Et ce texte se termine par « Pardonne Israël, mais n'oublie rien Israël. »
Ce rapport au judaïsme me questionne aussi par rapport à l'humour juif. On dit que Pierre Dac, c'est l'humour. Est-ce qu'il y avait chez lui ce qu'on appelle l'humour juif, Anne-Hélène Houg? Et qu'est-ce que l'humour juif, d'ailleurs?
C'est le retournement. C'est Pourim. Face aux ennemis, à un moment, il va falloir se souvenir qu'on a des ennemis. Et l'ordre du monde a des fois besoin d'être bouleversé. D'abord parce que l'histoire le fait. L'histoire bouleverse l'ordre du monde. Et inverser les rôles dans une société, c'est quelque chose de sain. C'est pour ça qu'on a du carnaval, que les gens aimaient énormément se déguiser. On oublie que dans la culture populaire, on aimait se déguiser, on aimait inverser les rôles. Pour lui, tout le retournement nous permet de remettre les choses à l'endroit, Bien sûr, ça passe aussi beaucoup par le langage. C'est tous les possibles de la lettre, tous les possibles du mot, tous les possibles de l'adverbe. Toujours et jamais, ben c'est rien puisque ça peut être tout. Et c'est ça, c'est-à-dire jouer sur les paradoxes intérieurs portés par la langue et que nous portons en nous.
Anne-Hélène Hougue, comment voyez-vous l'avenir de cette œuvre ? Alexandre Bande, dans le catalogue, parle de sa présence à l'école, de l'usage de ses textes en histoire, en éducation artistique et culturelle et en éducation civique. Mais ce ne sont là que des supports. Pierre Dac n'a-t-il pas une véritable place dans l'histoire de la littérature ?
Oui, certainement. Il a une place dans l'histoire de la littérature. Et puis, nous devons devenir des Pierre Dac. Moi, je suis persuadée qu'il nous faut retrouver cette intelligence heureuse, cette générosité du langage, et cette distance aussi des choses. Il nous faut faire des pas de côté.
Merci Anne-Hélène Hougue pour cette joyeuse et profonde conversation qui donne envie de découvrir plus avant l'œuvre et le personnage de Pierre Dac, ce que les auditeurs pourront faire en allant voir l'exposition intitulée « Du côté d'ailleurs » qui se déroule au MAJ du 15 octobre au 28 février 2021 ou bien en se plongeant dans le beau catalogue de l'exposition richement illustré et documenté. Et je tiens à préciser que le musée a tout fait pour que les visites se déroulent dans la plus stricte observance des règles sanitaires requises par la situation qui, décidément, a peut-être particulièrement besoin d'humour pour conjurer la morosité des temps que nous traversons. Mais nous y arriverons. Merci encore Anne-Hélène Hougue.
Merci à vous Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudic, une émission de Françoise-Anne Ménager et Marc-Alain Wachnin, à la prise de son aujourd'hui Claude Niort, à la réalisation Alexandra Malka. Coltouv, Loïc Traot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.